Chapitre 7, le petit couvert de Monsieur le Dauphin, les cheveux de la reine. Le même jour, Mademoiselle de Tavernay sortit de sa chambre à 3 heures pour se rendre chez la dauphine, qui avait l'habitude d'une lecture avant son dîner. L'abbé, premier lecteur de son Altesse royale, n'exerçait plus ses fonctions. Il s'en tenait à la politique transcendante depuis certaines intrigues diplomatiques dans lesquelles il avait déployé un assez beau talent de faiseur d'affaires. Mademoiselle de Tavernay sortit donc assez parée pour se rendre à son poste. Elle subissait, comme tous les hôtes de Trianon, les difficultés d'une installation un peu brusque. Elle n'avait encore rien organisé, ni son service, ni l'emménagement de son petit mobilier, et elle avait été provisoirement habillée par une des femmes de chambre de Madame de Noailles, cette dame d'honneur intraitable que la dauphine appelait Madame l'Étiquette. André portait une robe de soie bleue à taille longue et pincée comme le corsage d'une guêpe. Cette robe s'ouvrait et se disait pour laisser voir un dessous de mousseline à 3 rangs de tuyaux brodés. Des manches courtes, également brodées de mousseline festonnée et étagées depuis l'épaule, accompagnaient le fichu brodé à la paysanne qui cachait pudiquement la gorge de la jeune fille. Mademoiselle André avait relevé simplement ses beaux cheveux avec un ruban bleu pareil à la robe. Ses cheveux tombant de ses joues sur son cou et sur ses épaules en longues et épaisses boucles, rehaussaient bien mieux que les plumes, les aigrettes et les dentelles dont on usait alors la mine fière et modeste de la jeune fille au teint mat et pur que le rouge n'avait jamais souillé. Tout en marchant, André passait dans ses mitaines de soie blanche les doigts les plus effilés et les plus arrondis qu'il fût possible de voir, tandis que dans le sable du jardin s'imprimait la pointe du haut talon de ses mules de satin bleu tendre. Elle apprit, en arrivant au pavillon de Trianon, que Madame la Dauphine était allée faire un tour de promenade avec son architecte et son maître jardinier. On entendait cependant crier à l'étage supérieur la roue du tour sur lequel Monsieur le Dauphin s'occupait à faire une serrure de sûreté pour un coffre qu'il affectionnait beaucoup. André, pour aller rejoindre la Dauphine, traversa le parterre où, malgré la saison avancée, des fleurs, couvertes soigneusement la nuit, levaient leurs têtes pâlies pour aspirer les fugitifs rayons d'un soleil plus pâle qu'elles. Et comme déjà le soir approchait, car en cette saison la nuit vient à 6 heures, des garçons jardiniers s'occupaient d'abaisser les cloches de verre sur les plantes les plus frileuses de chaque plate-bande. Au détour d'une allée d'arbres verts qui, taillée en charmilles et bordée de rosiers du Bengale, aboutissait à une belle pièce de gazon, André perçut tout à coup un de ces jardiniers qui, en la voyant, se relevait sur sa bêche et la saluait avec une politesse plus habile et plus savante que ne l'est la politesse du peuple. Elle regarda et, dans cet ouvrier, reconnut Gilbert, dont les mains, malgré le travail, étaient encore assez blanches pour faire le désespoir de Monsieur de Tavernay. André rougit malgré elle. Il lui semblait que la présence de Gilbert en ce lieu était le résultat d'une étrange complaisance du sort. Gilbert redoubla son salut et André le lui rendit en continuant de marcher. Mais elle était une créature trop loyale et trop courageuse pour résister à un mouvement de l'âme et laisser sans réponse une question de son esprit inquiet. Elle revint sur ses pas et Gilbert, qui était déjà devenu pâle et la suivait sinistrement de l'œil, revint tout à coup à la vie et fit un bond pour se rapprocher d'elle. « Vous ici, monsieur Gilbert ?» dit froidement André. « Oui, mademoiselle. » « Par quel hasard ?»« Mademoiselle, il faut bien vivre et vivre honnêtement. » « Mais savez-vous que vous avez du bonheur ?»« Oui, beaucoup, mademoiselle, » dit Gilbert. « Plaît-il ?» Je dis, mademoiselle, que j'ai, comme vous le pensez, beaucoup de bonheur. Qui vous a fait entrer ici? Monsieur de Jussieu, un protecteur à moi. Ah, fit André surprise, vous connaissez monsieur de Jussieu? C'était l'ami de mon premier protecteur, de mon maître, de monsieur Rousseau. Bon courage, monsieur Gilbert, dit André en s'apprêtant à partir. « Vous vous portez mieux, mademoiselle ?» dit Gilbert avec une voix si tremblante qu'on devinait bien qu'elle s'était fatiguée en venant de son cœur dont elle représentait chaque vibration. Mieux, comment cela? Dit André froidement. Mais l'accident. Ah oui, merci, monsieur Gilbert, je vais mieux, ce n'est rien. Oh, vous avez bien failli périr, dit Gilbert au comble de l'émotion. Le danger était terrible. À ce moment, André pensa qu'il était bien temps d'abréger cet entretien avec un ouvrier en plein parc royal. Bonjour, monsieur Gilbert, dit-elle. Mademoiselle ne veut pas accepter une rose, dit Gilbert, frémissant et couvert de sueur. Mais, monsieur, repartit André, vous m'offrez là ce qui ne vous appartient pas. Gilbert, surpris, atterré, ne répliqua rien. Il baissa la tête et, comme André le regardait avec une certaine joie d'avoir manifesté sa supériorité, Gilbert, se relevant, arracha toute une branche fleurie du plus beau rosier et se mit à en effeuiller les roses avec un sang-froid et une noblesse qui imposèrent à la jeune fille. Elle était trop équitable et trop bonne pour ne pas voir qu'elle venait de blesser gratuitement un inférieur pris en flagrant délit de politesse. Aussi, comme tous les gens fiers qui se sentent coupables d'un tort, reprit-elle sa promenade sans ajouter un mot, quand peut-être l'excuse ou la réparation effleurait ses lèvres. Gilbert non plus n'ajouta pas un mot, il jeta la branche de rose et reprit sa bêche. Mais son naturel alliait la fierté à la ruse. Il se baissa pour travailler, sans doute, mais aussi pour voir s'éloigner André, qui, au détour d'une allée, ne put s'empêcher de se retourner. Elle était femme. Gilbert se contenta de cette faiblesse pour se dire qu'il venait de remporter la victoire dans cette nouvelle lutte. Elle est moins forte que moi, se dit-il, et je la dominerai. Orgueilleuse de sa beauté, de son nom, de sa fortune qui grandit, insolente de mon amour qu'elle devine peut-être, elle n'en est que plus désirable pour le pauvre ouvrier qui tremble en la regardant. Ah, ce tremblement, ce frisson indigne d'un homme! Oh, les lâchetés qu'elle me force à commettre, elle les paiera un jour. Mais pour aujourd'hui, j'ai fait assez de besogne, ajouta-t-il, j'ai vaincu l'ennemi. Moi qui eusse dû être plus faible, puisque j'aime, j'ai été 10 fois plus fort. Il répéta encore ces mots avec une joie sauvage et une main convulsive sur son front intelligent, d'où il releva ses beaux cheveux noirs. Il enfonça vigoureusement sa bêche dans la plate-bande, s'élança comme un chevreuil tout au travers de la haine de cyprès édifs, traversa, léger comme la brise, un massif de plantes sous cloche dont il n'effleura pas une, malgré la rapidité furieuse de sa course, et s'alla poster à l'extrémité de la diagonale qu'il venait de décrire pour tourner la route qu'André suivait circulairement. Là, en effet, il a vite encore s'avancer, pensive et presque humiliée, ses beaux yeux baissés, sa main moite et inerte doucement balancée sur sa robe frissonnante. Il l'entendit, cachée derrière l'épaisse charmille, soupirer 2 fois, comme si elle se parlait à elle-même. Enfin, elle passa si près des arbres que Gilbert eût pu, en allongeant le bras, effleurer celui d'André, comme une fièvre insensée, vertigineuse, lui conseillait de le faire. Mais il fronça le sourcil avec un mouvement de volonté pareil à de la haine, et posant une main crispée sur son cœur, encore lâche, se dit-il. Puis il ajouta tout bas, c'est qu'elle est si belle. Gilbert fut peut-être resté longtemps dans sa contemplation, car l'allée était longue et le pas d'André fort lent et fort mesuré. Mais cette allée avait des contre-allées d'où pouvait déboucher un fâcheux, et le hasard traita si mal Gilbert qu'un fâcheux déboucha effectivement de la première allée latérale à gauche, c'est-à-dire presque en face du massif d'arbres verts où Gilbert se tenait caché. Cet importun marchait d'un pas méthodique et mesuré. Il portait haut la tête, tenait son chapeau sous le bras droit et la main gauche sur l'épée. Il portait un habit de velours sous une pelisse doublée de martre zibeline et tenait en marchant la jambe qu'il avait belle et le coup de pied qu'il avait haut comme un homme de race. Ce seigneur, tout en s'avançant, aperçut André, et la tournure de la jeune fille lui parut sans doute agréable, car il doubla le pas en coupant obliquement de façon à se trouver sur la ligne que suivait André et la croiser le plus tôt possible. Gilbert, ayant vu ce personnage, poussa involontairement un petit cri et s'enfuit comme un merle effarouché sous les sumacs. La manœuvre du fâcheux lui réussit. Il en avait sans doute l'habitude, et avant 3 minutes, il se trouva précédé André, que 3 minutes auparavant, il suivait à une assez grande distance. André, entendant ce pas, se jeta d'abord un peu de côté pour laisser passer l'homme, puis, lorsqu'il fut passé, elle regarda de son côté. Le seigneur regardait aussi, et de tous ses yeux, il s'arrêta même pour mieux voir, et se retournant, après avoir vu, « Ah, mademoiselle, dit-il d'une voix tout aimable, où courez-vous donc si vite, je vous prie ?» Au son de cette voix, André leva la tête et vit à 30 pas derrière elle 2 officiers des gardes qui marchaient lentement. Elle vit, sous la pelisse de martre de celui qui lui adressait la parole, le cordon bleu, et toute pâle, tout effarouchée de cette rencontre inattendue et de cette interruption gracieuse, « Le roi, dit-elle en s'inclinant fort bas. Mademoiselle, répliqua Louis XV en s'approchant, j'ai de si mauvais yeux que je suis forcé de vous demander votre nom. Mademoiselle de Tavernet, murmura la jeune fille, si confuse, si tremblante, qu'à peine se fit-elle entendre. Ah, Ouida, c'est un heureux voyage que vous faites dans Trianon, mademoiselle, dit le roi. J'allais rejoindre son Altesse royale, madame la Dauphine, qui m'attend, répondit André, de plus en plus tremblante. Mademoiselle, je vous conduirai près d'elle, reprit Louis XV, car je vais, en voisin de campagne, rendre une visite à ma fille. Veuillez accepter mon bras, puisque nous suivons le même chemin. André sentit comme un nuage passer sur sa vue et descendre en flots tourbillonnant avec son sang jusqu'à son cœur. En effet, un pareil honneur pour la pauvre fille, le bras du roi, de ce souverain seigneur de tous, une gloire si inespérée, si incroyable, une faveur dont toute une cour eût été jalouse, lui paraissait quelque chose comme un rêve. Aussi fit-elle une révérence si profonde et si religieusement craintive que le roi se crut obligé de la saluer encore. Quand Louis XV voulait se souvenir de Louis XIV, c'était toujours en des questions de cérémonial et de politesse. Au reste, ses traditions de courtoisie venaient de plus loin, elles venaient de Henri IV. Il offrit donc sa main à André, celle-ci plaça l'extrémité brûlante de ses doigts dans le gant du roi, et tous deux continuèrent de marcher vers le pavillon où l'on avait dit au roi qu'il trouverait la Dauphine avec son architecte et son jardinier en chef. Nous pouvons assurer que Louis XV, qui cependant n'aimait pas beaucoup marcher, prit le plus long chemin pour conduire André au petit Trianon. Le fait est que les 2 officiers qui marchaient derrière s'aperçurent de l'erreur de Sa Majesté et s'en plaignirent, car ils étaient légèrement vêtus et le temps se refroidissait. Ils arrivèrent tard, puisqu'ils ne trouvèrent pas la Dauphine au moment où l'on espérait la trouver. Marie-Antoinette venait de partir pour ne pas faire attendre le dauphin qui aimait à souper entre 6 et 7 heures. Son Altesse royale arriva donc à l'heure exacte et comme le dauphin, très ponctuel, se tenait déjà sur le seuil du salon pour être plus vite à la salle à manger, lorsque le maître d'hôtel paraîtrait, la dauphine jeta sa mante aux mains d'une femme de chambre, alla prendre gaiement le bras du dauphin et l'entraîna dans la salle à manger. Le couvert était dressé pour les 2 illustres amphitryons. Ils occupaient chacun le milieu de la table, laissant aussi libre le haut-bout que, depuis certaines surprises du roi, on n'occupait jamais, même pour une table garnie de convives. À ce haut-bout, le couvert du roi, avec son cadenas, occupait une place considérable, mais le maître d'hôtel, qui ne comptait pas sur cette hôte, faisait le service de ce côté. Derrière la chaise de la Dauphine, avec l'espace nécessaire pour que les valets circulassent, ce n'est Madame de Noailles, roide et ayant pris pourtant tout ce qu'on doit avoir d'amabilité sur la figure à l'occasion d'un souper. Près de Madame de Noailles étaient les 2 autres dames auxquelles leur position à la cour constituait le droit ou méritait la faveur d'assister au souper de leurs Altesses royales. Trois fois par semaine, Madame de Noailles soupait à la même table que Monsieur le Dauphin et Madame la Dauphine, mais les jours où elle ne soupait pas, elle se fût bien gardée de ne point assister au souper. C'était d'ailleurs un moyen de protester contre l'exclusion de ses 4 jours sur 7. En face de la duchesse de Noailles, surnommée par la Dauphine Madame l'Étiquette, se tenait sur un gradin à peu près pareil Monsieur le Duc de Richelieu. Lui aussi était un strict observateur des convenances, seulement son étiquette à lui demeurait invisible à tous les yeux, éternellement cachée qu'elle était sous l'élégance la plus parfaite et quelquefois même sous le persiflage le plus fin. Il résultait de cette antithèse entre le premier gentilhomme de la chambre et la première dame d'honneur de son Altesse royale, Madame la Dauphine, que la conversation, sans cesse abandonnée par la duchesse de Noailles, était sans cesse relevée par Monsieur de Richelieu. Le maréchal avait voyagé dans toutes les cours de l'Europe et il avait appris dans chacune d'elles le ton d'élégance qui était le mieux approprié à sa nature, de sorte que, admirable de tact et de convenance, il savait à la fois toutes les anecdotes qui pouvaient se raconter à la table de jeunes infantes et au petit couvert de Madame du Barry. Il s'aperçut ce soir-là que la Dauphine mangeait avec appétit et que le Dauphin dévorait. Il supposa qu'il ne lui tiendrait pas tête dans la conversation et qu'il ne s'agissait que de faire passer à Madame de Noailles une heure de purgatoire anticipée. Il se mit à parler philosophie, théâtre, double sujet de conversation, doublement antipathique à la vénérable duchesse. Il raconta donc le sujet d'une des dernières boutades philanthropiques du philosophe de Ferney, nom que l'on donnait déjà à l'auteur de la Henriade. Et quand il vit la duchesse sur les dents, il changea de texte et détailla tout ce qu'en sa qualité de gentilhomme de la chambre, il avait de tracas pour faire jouer, plus ou moins mal, mesdames les comédiennes ordinaires du roi. La Dauphine aimait les arts, et surtout le théâtre. Elle avait trouvé un costume complet de Clytemnestre à Mademoiselle Aucourt. On écouta donc Monsieur de Richelieu, non seulement avec indulgence, mais encore avec plaisir. Alors on vit la pauvre dame d'honneur, au mépris de l'étiquette, s'agiter sur son gradin, se moucher haut et secouer sa vénérable tête, sans songer aux nuages de poudre qui, à chacun de ses mouvements, enveloppait son front, comme à chaque bouffée de bise un nuage de neige enveloppe la cime du Mont-Blanc. Mais ce n'était pas le tout que d'amuser Madame la Dauphine, il fallait encore plaire à Monsieur le Dauphin. Le Richelieu abandonna donc la question du théâtre, pour lequel l'héritier de la couronne de France n'avait jamais eu grande sympathie, pour parler philosophie humanitaire. Il eut à propos des Anglais toute cette chaleur que Rousseau jette comme un fluide vivifiant sur le personnage d'Edward Bomston. Or, Madame de Noailles exécrait les Anglais autant que les philosophes. Une idée neuve était une fatigue pour elle, et une fatigue dérangeait l'économie de toute sa personne. Madame de Noailles, qui se sentait faite pour conserver, hurlait aux idées nouvelles comme les chiens au masque. Richelieu avait un double but en jouant ce jeu. Il tourmentait Madame l'Étiquette, ce qui faisait sensiblement plaisir à Madame la Dauphine, et il trouvait par-ci, par-là, quelques apophthegmes vertueux, quelques axiomes de mathématiques recueillis joyeusement par Monsieur le Dauphin, prince amateur des choses exactes. Il faisait donc sa cour à merveille, cherchant de tous ses yeux quelqu'un qu'il comptait voir là et qu'il n'y trouvait pas, lorsqu'un cri, poussé au bas de l'escalier, monta dans la voûte sonore, répétée par les deux autres voix étagées sur le palier d'abord, puis sur l'escalier même. « Le roi !» À ce mot magique, Madame de Noailles se leva, comme si un ressort d'acier l'eût fait saillir de son gradin. Richelieu se souleva lentement, avec habitude. Le Dauphin essuya précipitamment sa bouche avec sa serviette et se tint debout devant sa place, le visage tourné vers la porte. Quant à Madame la Dauphine, elle se dirigea vers l'escalier pour rencontrer le roi plus vite et lui faire les honneurs de la maison. Le roi tenait encore mademoiselle de Tavernet par la main en arrivant ce palier, et en arrivant à cette place seulement, il la salua si courtoisement, si longuement, que Richelieu eut le temps de voir le salut, d'en admirer la grâce, et de se demander à quelle heureuse mortelle il avait été adressé. Son ignorance ne dura pas longtemps. Louis XV prit le bras de la dauphine, qui avait tout vu et qui avait déjà parfaitement reconnu André. « Ma fille, lui dit-il, je viens sans façon vous demander à souper. J'ai traversé tout le parc et, en chemin, rencontrant mademoiselle de Tavernet, je l'ai priée de me faire compagnie. »« Mademoiselle de Tavernet !» murmura Richelieu, presque étourdi de ce coup imprévu. « Par ma foi, j'ai trop de bonheur. » « En sorte que, non seulement je ne gronderai pas mademoiselle, était en retard, répondit gracieusement la dauphine, mais je la remercierai de nous avoir amené votre majesté. » André, rouge comme une des belles cerises qui garnissait le surtout au milieu des fleurs, s'inclina sans répondre. « Diable, diable, elle est belle, en effet, » se dit Richelieu, et ce vieux drôle de Tavernet n'en disait pas plus sur elle qu'elle n'en mérite. » Déjà, le roi était à table après avoir reçu le salut de monsieur le dauphin. Doué comme son aïeul d'un appétit complaisant, le monarque fit honneur au service improvisé que le maître d'hôtel plaça devant lui comme par enchantement. Seulement, tout en mangeant, le roi, qui tournait le dos à la porte, semblait chercher quelque chose, ou plutôt quelqu'un. En effet, mademoiselle de Tavernet, qui ne jouissait d'aucun privilège, sa position n'étant pas encore bien fixée auprès de madame la dauphine, mademoiselle de Tavernet, disons-nous, n'était point entrée dans la salle à manger, et après sa profonde révérence en réponse à celle du roi, elle était rentrée dans la chambre de madame la dauphine, qui, deux ou trois fois déjà, lui avait fait faire la lecture après s'être mise au lit. Madame la dauphine ne comprit que c'était sa belle compagne de route que cherchait le regard du roi. « Monsieur de Coigny, dit-elle à un jeune officier des gardes placé derrière le roi, faites donc entrer, je vous prie, mademoiselle de Tavernet. Avec la permission de madame Noailles, nous dérogerons ce soir à l'étiquette. » Monsieur de Coigny sortit, et un instant après introduisit André, qui, ne comprenant rien à cette succession de faveurs inaccoutumées, entra toute tremblante. « Mettez-vous là, mademoiselle, dit la dauphine, près de madame la duchesse. » André monta timidement le gradin. Elle était si troublée qu'elle eut l'audace de s'asseoir à un pied seulement de la dame d'honneur. Aussi reçut-elle un coup d'œil si foudroyant de celle-ci que la pauvre enfant, comme si elle eût été mise en contact avec une bouteille de lait de rudement chargée, recula de 4 pieds au moins. Le roi Louis XV la regardait et souriait. « Ah ça, mais, se dit le duc de Richelieu, ce n'est presque pas la peine que je m'en mêle, et voilà des choses qui marchent toutes seules. » Le roi se retourna alors et aperçut le maréchal, tout préparé, à soutenir ce regard. « Bonjour, monsieur le duc, dit Louis XV, faites-vous bon ménage avec madame la duchesse de Noailles ?»« Sire, répliqua le maréchal, madame la duchesse me fait toujours l'honneur de me maltraiter comme un étourdi. » « Est-ce que vous êtes allé aussi sur la route de Chanteloup, vous, duc ?»« Moi, sûr, oh, ma foi, non. Je suis trop heureux pour cela, des bontés de votre majesté pour ma maison. » Le roi ne s'attendait pas à ce coup. Il se préparait à railler, on allait au-devant de lui. « Qu'est-ce que j'ai donc fait, duc ?»« Sire, votre majesté a donné le commandement de ses chevaux légers à monsieur le duc d'Aiguillon. »« Oui, c'est vrai, duc. » Et pour cela, il fallait toute l'énergie, toute l'habileté de votre majesté. C'est presque un coup d'état. On était à la fin du repas. Le roi attendit un moment et se leva de table. La conversation eût pu l'embarrasser, mais Richelieu était décidé à ne pas lâcher sa proie. Aussi, lorsque le roi se mit à causer avec madame de Noailles, la dauphine et mademoiselle de Tavernet, Richelieu manœuvra-t-il si savamment qu'il se retrouva en pleine conversation, conversation qu'il avait dirigée selon son gré. « Sire, dit-il, votre majesté sait que les succès enhardissent. Est-ce pour nous dire que vous êtes hardi, duc ? C'est pour demander à votre majesté une nouvelle grâce après celle que le roi a daigné me faire. Un de mes bons amis, un ancien serviteur de votre majesté, a son fils dans les gendarmes. Le jeune homme est plein de mérite, mais pauvre. Il a reçu d'une auguste princesse un brevet de capitaine, mais il lui manque la compagnie. La princesse est ma fille, demanda le roi en se retournant vers la dauphine. Oui, sire, dit Richelieu, et le père de ce jeune homme s'appelle le baron de Tavernet.
Mon père, s'écria involontairement André, Philippe, c'est pour Philippe, monsieur le duc, que vous demandez une compagnie.
Puis, honteuse de cet oubli de l'étiquette, André fit un pas en arrière, rougissante et les mains jointes. Le roi se retourna pour admirer la rougeur, l'émotion de la belle enfant. Il revint aussi à Richelieu avec un regard de bienveillance qui apprit au courtisan combien sa demande était agréable à cause de l'occasion qu'elle fournissait.
« En effet, dit la dauphine, ce jeune homme est charmant, et j'avais pris l'engagement de faire sa fortune. Que les princes sont malheureux. Dieu, quand il leur donne la bonne volonté, leur ôte la mémoire ou le raisonnement. Ne devais-je pas penser que ce jeune homme était pauvre, que ce n'était pas assez de lui donner l'épaulette et qu'il fallait encore lui donner la compagnie ?»
Madame, comment votre Altesse l'eût-elle su ?
Oh, je le savais, répliqua vivement la dauphine, avec un geste qui rappela au souvenir d'André la maison si nue, si modeste, et pourtant si heureuse à son enfance. Oui, je le savais, et j'ai cru avoir tout fait en donnant un grade à monsieur Philippe de Tavernet. Il s'appelle Philippe, n'est-ce pas, mademoiselle ?
Oui, madame. Le roi regarda toutes ces physionomies si nobles, si ouvertes, puis il arrêta les yeux sur celle de Richelieu, qui s'illuminait aussi d'un reflet de générosité qu'il empruntait sans doute à son auguste voisine. « Ah, duc, dit-il à demi-voix, je vais me brouiller avec Lucienne. » Puis, vivement, à André, « Dites que cela vous fera plaisir, mademoiselle, ajouta-t-il.
« Ah, si, refit André en joignant les mains, je vous en supplie. »
« Accordez alors, dit Louis XV, vous choisirez une bonne compagnie à ce pauvre jeune homme, duc, et j'en ferai les fonds si elle n'est pas toute payée et toute vacante. » Cette bonne action réjouit tous les assistants. Elle valut au roi un céleste sourire d'André, elle valut à Richelieu un remerciement de cette bouche à qui, dans sa jeunesse, il eût demandé plus encore, ambitieux et avare comme il était. Quelques visiteurs arrivèrent successivement, parmi eux le cardinal de Rohan, qui, depuis l'installation de la dauphine à Trianon, faisait assidûment sa cour. Mais le roi, pendant toute la soirée, n'eut de bons égards et d'agréables paroles que pour Richelieu. Il se fit même accompagner de lui lorsqu'il prit congé de la dauphine pour retourner à son Trianon. Le vieux maréchal suivit le roi avec des tressaillements de joie. Tandis que sa majesté regagnait avec le duc et ses deux officiers les allées sombres qui aboutissent au palais, André avait été congédié par la dauphine.
« Vous avez besoin d'écrire cette bonne nouvelle à Paris, avait dit la princesse. Vous pouvez vous retirer, mademoiselle. »
Et, précédée d'un valet de pied qui portait une lanterne, la jeune fille traversait l'esplanade de 100 pas qui séparait Trianon des communs. Devant elle aussi, de buisson en buisson, bondissait dans les feuillages une ombre qui suivait chaque mouvement de la jeune fille avec des yeux étincelants. C'était Gilbert. Lorsqu'André fut arrivé au perron et qu'elle commença à monter les marches de pierre, le valet retourna aux antichambres de Trianon. Alors Gilbert, se glissant à son tour dans les vestibules, arriva au cours des écuries et, par un petit escalier, roide comme une échelle, grimpa dans sa mansarde située en face des fenêtres de la chambre d'André, dans un angle des bâtiments. Il vit André appelé à l'aide d'une femme de chambre de Madame de Noailles qui avait sa chambre dans le même corridor. Mais lorsque cette fille entra dans la chambre d'André, les rideaux de la fenêtre tombèrent comme un voile impénétrable entre les ardents désirs du jeune homme et l'objet de ses idées. Au palais ne restait plus que monsieur de Rohan, en redoublant de galanterie auprès de madame la dauphine, qui le traitait assez froidement. Le prélat finit par craindre d'être indiscret, et d'autant plus qu'il avait déjà vu monsieur le dauphin se retirer. Il prit donc congé de son Altesse royale avec les marques du plus profond et du plus tendre respect. Au moment où il montait en carrosse, une femme de chambre de la dauphine s'approcha de lui et entra presque dans sa voiture. « Voici, dit-elle, et elle lui mit dans la main un petit papier soyeux dont le contact fit frissonner le cardinal. « Voici, répliqua-t-il, en mettant dans la main de cette femme une bourse lourde et qui vide eût été un salaire raisonnable. » Le cardinal, sans prendre de temps, commanda au cocher de partir pour Paris et de demander de nouveaux ordres à la barrière. Pendant tout le chemin, dans l'obscurité de la voiture, il palpa et baisa comme un amant enivré le contenu de ce papier. Une fois à la barrière, « Rue Saint-Claude, dit-il. » Bientôt après, il traversait la cour mystérieuse et retrouvait ce petit salon où se tenait Fritz, l'introducteur, aux silencieuses façons. Balsamo se fit attendre un quart d'heure. Il parut enfin et donna au cardinal, pour cause de son retard, l'heure avancée qui pouvait lui permettre de croire qu'aucune visite ne lui viendrait plus. En effet, il était près de 11 heures du soir. « C'est vrai, monsieur le baron, dit le cardinal, et je vous demande pardon de ce dérangement, mais vous souvenez-vous de m'avoir dit un jour que, pour être assuré de certains secrets, il fallait les cheveux de la personne dont nous parlions ce jour-là, interrompit Balsamo, qui avait vu déjà le petit papier du naïf prélat. « Précisément, monsieur le baron, et vous m'apportez ces cheveux, monseigneur, très bien, les voici. » Croyez-vous qu'il sera possible de les ravoir après l'expérience? À moins que le feu n'ait fait le nécessaire, auquel cas... sans doute, dit le cardinal, mais alors je pourrais m'en procurer d'autres. Et puis-je avoir une solution? Aujourd'hui? Je suis impatient, vous le savez. Il faut d'abord essayer, monseigneur. Balsamo prit les cheveux et monta précipitamment chez Lorenza. « Je vais donc savoir, se disait-il en chemin, le secret de cette monarchie. Je vais donc savoir le dessein caché de Dieu. » Et de l'autre côté de la muraille, avant même d'avoir ouvert la porte mystérieuse, il endormit Lorenza. La jeune femme le reçut donc avec un tendre embrassement. Balsamo s'arracha avec peine de ses bras. Il eût été difficile de dire quelle chose était plus douloureuse au pauvre baron, ou des reproches de la belle Italienne quand elle était éveillée, ou de ses caresses quand elle dormait. Enfin, étant parvenu à dénouer la chaîne que les deux beaux bras de la jeune femme avaient jetée à son cou, « Ma Lorenza chérie, lui dit-il en lui mettant le papier dans la main, peux-tu me dire à qui sont ces cheveux ?» Lorenza les prit et les appuya sur sa poitrine, puis contre son front. Quoique ses deux yeux fussent ouverts, c'était par la poitrine et le front qu'elle voyait pendant son sommeil. « Oh, dit-elle, c'est une illustre tête que celle à qui on les a dérobées. N'est-ce pas? Une heureuse tête, dit. Elle peut l'être. Cherche bien, Lorenza. Oui, elle peut l'être, il n'y a pas d'ombre encore sur sa vie. Mais cependant, elle est mariée. Oh, fit Lorenza avec un doux sourire. « Eh bien quoi? Que veut dire ma Lorenza ?»« Elle est mariée, cher Balsamo, ajouta la jeune femme, et cependant... »« Cependant... »« Et cependant... » Lorenza sourit encore. « Moi aussi, je suis mariée, dit-elle. »« Mais sans doute. »« Et cependant... » Balsamo regarda Lorenza avec un profond étonnement. Malgré le sommeil de la jeune femme, une pudibonde rougeur s'étendait sur son visage. « Et cependant, répéta Balsamo, achève !» Elle jeta de nouveau ses bras autour du cou de son amant et cachant sa tête dans sa poitrine. « Et cependant, je suis vierge, dit-elle. » « Et cette femme, cette princesse, cette reine, s'écria Balsamo, toute mariée qu'elle l'est !» « Cette femme, cette princesse, cette reine, répéta Lorenza, elle est aussi pure et aussi vierge que moi, et plus pure, plus vierge même, car elle n'aime pas comme moi. »« Oh, fatalité !» murmura Balsamo. « Merci, Lorenza, je sais tout ce que je voulais savoir. » Il l'embrassa, serra précieusement les cheveux dans sa poche, et coupant à Lorenza une petite mèche de cheveux noirs, il la brûla aux bougies
et en accueillit la cendre dans le papier qui avait enveloppé les cheveux de la dauphine. Alors il redescendit et, tout en marchant, réveilla la jeune femme. Le prélat, tout ému d'impatience, attendait et doutait. « Eh bien, monsieur le comte, dit-il, eh bien, monseigneur, l'oracle. L'oracle a dit que vous pouviez espérer. » « Il a dit cela !» s'écria le prince transporté. « Concluez du moins comme il vous plaira, monseigneur, l'oracle ayant dit que cette femme n'aimait pas son mari. »« Oh !» fit monsieur de Rohan avec un transport de joie. « Quant aux cheveux, il m'a fallu les brûler pour obtenir la révélation par l'essence, et voici les cendres que je vous rends scrupuleusement après les avoir recueillies, comme si chaque parcelle valait 1 000 000. » « Merci, monsieur, merci, je ne pourrai jamais m'acquitter envers vous. »« Oh, ne parlons pas de cela, monseigneur. Une seule recommandation, dit-il, n'allez pas avaler les cendres dans du vin, comme me font quelquefois les amoureux. C'est d'une sympathie si dangereuse que votre amour deviendrait incurable, tandis que le cœur de l'amante se refroidirait. »« Ah, je n'aurai garde, dit le prélat, presque épouvanté. Adieu, monsieur le comte, adieu. » 20 minutes après, le carrosse de son éminence croisait au coin de la rue des Petits Champs la voiture de monsieur de Richelieu, qu'elle faillit renverser dans un de ces trous énormes creusés pour la construction d'une maison. Les deux princes se reconnurent. « Eh, prince !» dit Richelieu avec un sourire. « Eh, duc !» répliqua monsieur de Rohan avec un doigt sur sa bouche. Et ils furent transportés en sens inverse.